Les Masques Tombent sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Et aujourd'hui, on reçoit Odile Fuchs, qui est créatrice, fondatrice de l'association Langue et Signes.
RCN, Les Masques Tombent.
Bonjour Odile, bonjour Lunettes en Pointe.
Exactement, bravo, je vois que vous êtes allé sur le site.
Et oui, je me suis un petit peu renseigné quand même. Alors pour vous présenter tel qu'on vous connaît au premier abord comme ça, donc vous êtes psychopraticienne, c'est ça ?
C'est ça, ou autrement dit, praticienne en psychothérapie.
Ok. Comme ça, voilà. C'est bien dit. Également psychothérapeute, du coup, on le dit comme ça, c'est la même chose.
Alors en fait, c'est psychopraticienne ou praticienne en psychothérapie, d'accord. Mais c'est quasiment le même métier.
Ok, d'accord. Et vous êtes également donc créatrice de l'association Langue et Signes.
C'est ça.
Pour vous avoir appelé Lunettes en Pointe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un prénom sourd ?
Alors, quand on rentre dans la communauté sourde, c'est-à-dire quand on commence à apprendre la langue des signes, la langue des signes a une spécificité, c'est qu'on ne traduit pas un mot pour un mot, on traduit un concept.
D'accord.
Et donc, il y a ce qu'on appelle l'alphabet dactylologique, mais on ne l'utilise pas pour dire un mot, parce qu'on peut l'utiliser de temps en temps, mais donc on va faire un signe.
D'accord.
Et pour nommer quelqu'un, moi ça va, mon prénom il est court, c'est Odile, il y a 5 lettres. Donc si je devais le faire en alphabet dactylologique, donc avec les doigts, ça serait rapide.
Mm-hmm.
Mais imaginons que vous appeliez Jean-Philippe.
C'est tout de suite
c'est
plus compliqué.
C'est beaucoup plus long pour parler de quelqu'un. Donc, les sourds ont trouvé la solution. Ils vont, par rapport à un signe distinctif ou un métier ou un nom de famille, etc. Enfin, il y a plusieurs raisons. Ils vont trouver un signe. Moi, c'était par rapport à une particularité physique. Pas physique, mais un signe distinctif. On m'a appelé Lunettes en Pointe parce que quand j'ai commencé à apprendre la langue des signes, j'avais des lunettes en papillon, en forme de pointe.
D'accord.
Et donc, on m'appelle... La première fois, on dit Odile, on signe mon prénom, on fait l'alphabet dactylologique et ensuite, on parle de moi en faisant ce signe Lunettes en Pointe.
Ok, et donc c'est un prénom, finalement, est-ce que ça existe toujours, les vrais prénoms est-ce que ça devient secondaire une fois qu'on connaît votre prénom sourd ?
C'est exactement ça.
D'accord.
Le prénom civil, on va dire,
ouais,
devient secondaire une fois qu'on fait partie, une fois qu'on parle en langue des signes. Le prénom sourd, il est valable pour toutes les célébrités, par exemple. Le président de la République française, il en a un. Le roi d'Angleterre, il en a un, etc., etc.
Et c'est quoi, par exemple ? Parce que moi, si vous le connaissez...
Je peux vous le montrer, mais les auditeurs ne vont pas le voir.
Il faudra regarder le replay.
C'est ça.
D'accord. Ok.
Vous savez pourquoi ?
Non, du tout.
Eh ben oui, parce que ça montre aussi la différence entre les sourds et la communauté des entendants, comme les appellent les sourds.
Ouais.
Ils sont très observateurs, les sourds.
Oui.
Donc, on appelle le président de la République celui qui a des pattes.
D'accord.
Et maintenant, je suis sûre que vous allez aller vérifier s'il a bien des pattes, parce que la plupart des gens ne le remarquent pas, mais les sourds l'ont bien vu. Et comme ça arrête en dessous des oreilles, ils l'ont appelé comme ça.
Ok.
Voilà.
Ah oui, donc effectivement, ça vient sur des détails du coup physiques.
C'est un signe distinctif.
D'accord. Très bien. Pour expliquer un peu aux gens, donc vous êtes, sourde.
Et je suis sourde moyenne, oui, bientôt sévère pour une de mes oreilles, en effet.
Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire une surdité moyenne ?
En fait, il y a quatre niveaux de surdité. On commence léger, moyen, sévère et profond. Donc la surdité légère, elle commence à partir d'une perte d'audition de 20 décibels jusqu'à 39 décibels. Ça veut dire qu'entre 20 et 39 décibels, on entend moins bien ou on n'entend plus.
D'accord.
Souvent, ça peut être le chant des oiseaux ou même un chuchotement. Ensuite, la surdité moyenne, donc c'est la mienne, c'est entre 40 et 70 décibels. Donc moi, j'approche une perte d'audition de 70 décibels sur une oreille en particulier parce que ce n'est pas forcément
équivalent.
Équivalent, effectivement. Ouais. Donc là, par exemple, une conversation normale, c'est 50 décibels.
Donc on est dans la tranche entre les deux.
Exactement. Et ça veut dire que dès une surdité moyenne, on a déjà une difficulté pour suivre une conversation.
Ouais.
Et c'est important de le dire parce qu'on s'en rend... C'est pas parce qu'on est appareillé d'ailleurs ou qu'on a des prothèses auditives qu'on va entendre comme si on avait des oreilles normales.
D'accord.
Au-dessus, c'est une surdité sévère, donc c'est entre 71 et 90 décibels de perte. Et au-dessus, c'est profonde. Voilà, donc c'est plutôt ce qu'on considère comme sourd en général.
Mmh. Alors justement, c'est quoi la différence entre malentendant et sourd ? Parce qu'on en parlait en off, mais souvent quand on dit sourd à quelqu'un, ça évoque une incapacité à entendre le moindre son. Tandis que malentendant, on peut se dire c'est des difficultés. Donc il y a la frontière entre ces deux termes, elle se situe où ?
Elle n'est pas forcément évidente. Alors pour les, ça dépend, j'allais dire, dans quelle communauté on se place. Si on est du côté des entendants, on va plus facilement dire malentendant.
D'accord.
Et si on est du côté des sourds, quel que soit le type de surdité, on va dire sourd.
On va plutôt dire sourd.
Ouais,
okay.
Parce qu'ils ne font pas trop de différence. Même s'il y a parfois des différences entre les sourds appareillés, les sourds non appareillés, etc. Mais c'est un autre débat.
Ok. Merci pour les précisions. Je voulais qu'on parle maintenant de votre activité. Parce que donc, vous disiez, j'ai peur de dire une bêtise sur le terme. Donc, praticienne en psychothérapie, c'est ça ?
Oui.
En quoi consiste votre activité ?
Alors moi, en fait, j'accompagne des gens vers un mieux-être. Avoir des gens au cabinet qui ont des problèmes de gestion des émotions, qui ont un problème au travail, qui ont un problème de douleur. Voilà, après, je ne suis pas médecin, donc mon domaine de compétence s'arrête à un certain moment et je redirige les personnes. Mais moi, je les accompagne, en fait.
D'accord.
Je les écoute, c'est beaucoup par la parole. Voilà. Et j'utilise aussi la langue des signes dans mon métier,
oui.
Puisque comme je suis sourde, ma famille et tout le monde entend bien.
D'accord.
Tout le monde entend bien, mais oui, ça arrive. En fait, 90% des enfants sourds naissent de parents entendants.
D'accord.
Ce qui explique aussi la difficulté, puisque les parents entendants n'ont pas les codes de la surdité. Et donc, la surdité gagnant du terrain, j'ai décidé d'apprendre la langue des signes. Et aujourd'hui, je peux recevoir en langue des signes. Et je l'utilise aussi avec les personnes qui entendent, parce que la langue des signes est une langue visuelle.
Oui.
C'est un concept. Et en fait, par exemple, pour dire les émotions, on se base beaucoup de l'endroit où elles se produisent dans le corps.
Oui.
Et quand on ne connaît pas trop bien ces émotions, c'est très utile.
Ok, donc ça veut dire que les gens peuvent... Vous pouvez comprendre certaines émotions ou certaines choses qu'on vous exprime de par les gestes, justement, et que ce soit des personnes sourdes ou des personnes entendantes.
Voilà, et puis... C'est tout à fait ça. Il y a aussi une différence, c'est que souvent, les entendants, ils s'expriment plus par la voix que par le corps.
Oui.
Alors que les sourds, c'est l'inverse.
Ouais.
C'est aussi pour ça que les deux communautés ont du mal à se comprendre, parce que c'est pas du tout les mêmes codes de communication. Mais aussi, je suis capable, du fait d'être sourde, je vois les micro-signes, en fait. Je vois les respirations, les haussements de sourcils, ou plein de petites autres choses que d'autres thérapeutes ne peuvent pas voir, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'observation liée à la surdité.
Ouais. On reviendra sur cet aspect justement où tous les autres sens vont un peu compenser entre guillemets ce manque au terme de l'oreille. Moi je voulais qu'on aborde un point déjà, c'est vous disiez que 95% si la statistique est bonne, 90% des gens naissent sans deux parents entendants. Ça veut dire que ça peut toucher tout le monde en fait,
oui.
La surdité.
Oui.
Comment ça peut se déclencher Comment on devient sourd, en fait ?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Là, je vous parlais des 90%, c'est les naissances.
D'accord, ok.
D'accord ?
Donc c'est vraiment naître directement avec cette difficulté.
Voilà, c'est à 90% d'enfants sourds qui naissent de parents entendants. Après, on peut devenir sourd. Et la surdité, elle est liée à plusieurs choses, soit un problème génétique, soit un problème de maladie. Soit un choc, ça peut être un traumatisme, on tombe par terre, on se cogne, on se fait mal à l'oreille et on casse son oreille. Soit ça peut être aussi un choc sonore, un traumatisme sonore. Ça peut être aussi sans explication. Il y a aussi des surdités où il n'y a pas d'explication. La mienne, par exemple, on ne sait pas pourquoi je n'entends pas bien.
D'accord.
Alors c'est sans doute lié à des médicaments, mais on n'en est pas sûr.
Et ça s'est déclenché à quel âge à peu près votre... Est-ce que vous aviez une prédisposition plus jeune ou est-ce que c'est vraiment arrivé de manière... à je ne sais quel âge en fait, comment ça s'est déclenché chez vous votre surdité ?
Alors moi je pense que je suis sourde depuis toujours.
Okay.
Parce que je me suis même rendu compte que certains sons, pour moi, sont... Quand je parle, certains sons ne sont pas très clairs. Je fais « on » en « un ». Après, ce n'est pas forcément très facile pour tout le monde. Mais ça veut dire que la surdité est déjà là. Au moment de l'apprentissage de la parole. Parce que sinon, j'aurais pas eu ce problème.
D'accord.
Voilà. Et puis, comme c'était une surdité légère, puis je suis pas du temps des dinosaures, mais je suis quand même un peu plus vieille que vous. Et donc, les tests auditifs étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Ok.
Je parlais très fort, je demandais souvent de répéter. Et puis, avec en vieillissant, la surdité s'est aggravée. Parce que la surdité touche tout le monde, il faut quand même le dire. On parle beaucoup de presbytie, hein, on a, au-dessus de 45 ans, on a tous des lunettes, ça étonne personne, c'est presque un outil de beauté, enfin un bijou comme un accessoire, en tout cas un accessoire. Et la surdité, on en parle moins, mais il existe aussi la presbyacousie. Donc en fait, aux alentours de 45 ans, vous aussi, vous allez perdre l'audition.
Oui. C'est vrai que c'est un phénomène plutôt naturel aussi.
Exactement.
Comme vous le disiez, justement, les yeux, un peu plein de sens, en fait, ça se détériore avec le temps. Et est-ce que ça se guérit ?
La surdité ne se guérit pas, non. Non.
Comme la vue, finalement.
Alors, la vue, en fait, sauf certaines maladies, bien sûr, de la vue, mais en fait, une fois que vous avez des lunettes qui sont bien adaptées à votre vue, c'est comme si vous aviez... vos yeux.
Ouais.
Pour les prothèses auditives, les oreilles, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de choses techniques qui rentrent en ligne de compte. Et donc, c'est pas parce que... En fait, la phrase qu'il faut retenir, c'est « entendre n'est pas comprendre ». Moi, je peux vous entendre. Mais par contre, si vous me parlez, si vous êtes dos à moi, si vous êtes à contre-jour, s'il y a du bruit environnant, si je peux pas lire sur vos lèvres... Donc, si vous portez un masque, par exemple, eh bien, j'aurai beaucoup plus de mal à vous comprendre, même si je vous entends.
D'accord. On va s'écouter une musique que vous avez choisie.
Oui.
Avant de parler un peu plus de l'association. Donc, cette chanson s'appelle « Fais-moi signe » de Oshi.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Eh bien, parce que vous m'avez demandé de choisir une musique en lien avec la surdité. Et j'ai immédiatement pensé à Oshi, qui, elle aussi, est atteinte de surdité.
D'accord.
Qui a écrit cette chanson par rapport à cette surdité. Et parce que cette chanson, lorsqu'elle a gagné le prix des Victoires de la musique, est chansignée. Et c'est aussi, en fait, ça fait partie de la culture sourde, le chansigne.
Qu'est-ce que c'est le chansigne ?
Le chansigne, c'est interpréter la chanson en signe en même temps que l'interprète la chante à l'oral.
Ouais.
Voilà. Donc, il y a tout un travail précédemment pour ça. Il faut beaucoup réfléchir à ce qu'a voulu dire l'interprète ou l'auteur avant de mettre le signe. Puisqu'on ne traduit pas un signe, un mot, on traduit un concept.
Un concept.
Voilà.
On s'écoute cette musique tout de suite.
Sur un malentendu, j'ai fait la sourde oreille. Peur du silence imprévu, de dépendre d'un appareil. À comme un vide absolu, qui n'a de pareil que le vide absolu. Sur un fil tendu, j'ai marché pour pas me perdre. Prise au dépourvu, chaque concert est un combat avec moi-même. Chaque concert est un combat avec moi-même. Comme une arène, fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe. Deviens ma dernière chanson, fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Je vous jure, je suis toute oui. Non, même je vous assure que chacun de vos cris, à chaque fois je les capture. Jamais je n'oublie, par peur qu'ils deviennent des murmures. Des murmures. Face à vous je tremble, accroché au micro. Je sens mon corps se fendre et je retiens mes mots. Mes vertiges m'étranglent, peur de tomber de haut. Faites que je finisse ce morceau. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe si j'ai les images, mes pulsions. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe. Offre-moi mes derniers frissons, fais-moi signe. Deviens ma dernière chanson, fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe. Fais-moi signe, si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, deviens ma dernière audition. Fais-moi signe, si j'ai les images mais plus le son. Fais-moi signe, sois le sous-titre de ma prison. Fais-moi signe, offre-moi mes derniers frissons. Fais-moi signe, devient ma dernière chanson.
RCN, les masques tombent.
On vient d'écouter donc Fais-moi signe de Oshi et vous êtes toujours dans Les Masques Tombent. Nous sommes toujours avec Odile Fouche qui est la fondatrice de l'association Langue et Signe. Et on va parler un petit peu plus de cette association justement, puisqu'elle existe depuis 2022, c'est ça. Comment elle a été créée cette association?
C'est une histoire de hasard, cette association.
D'accord.
En fait, j'ai commencé par donner des cours de langue des signes de façon tout à fait fortuite à Paris, dans une MJC à Paris, voilà. Et puis, il fallait une identité autre que la mienne parce que je voulais plus que ça soit la langue des signes qui soit mise en avant que moi. Et donc j'ai créé cette association d'abord pour faire l'initiation à la langue des signes.
Ok.
Voilà, donc je précise que c'est une initiation, hein, c'est pas des cours pour être professionnel. C'est dans l'esprit d'apprendre la langue des signes comme on apprendrait de l'anglais ou de la salsa dans une MJC. Il n'y a pas de raison que la langue des signes elle échappe à être accessible. Voilà. Et puis, depuis, on fait des activités un peu plus importantes. On fait de la formation autour de la surdité, de la sensibilisation aussi. Et puis, on a un gros projet depuis l'année dernière où on a créé ce qu'on appelle les ateliers silencieux.
D'accord.
Alors, il ne faut surtout pas avoir peur.
Tout de suite, on ne sait pas.
Silencieux, on se dit, oh là là, on va s'ennuyer, on ne va pas dire un mot. Eh bien si, on l'est dit, mais en langue des signes.
Et voilà.
En fait, c'est une façon ludique d'apprendre la langue des signes. Donc, il y a des ateliers qui sont avec des créneaux réservés aux enfants sourds.
D'accord.
Alors, pourquoi on a créé ça? Parce que je fais les questions et les réponses. Hein.
Je vous laisse faire. Je vous laisse faire l'interview tout seul. Et puis...
Non, mais les idées me viennent au fur et à mesure.
Allez-y.
Parce qu'en fait, en me rendant un soir à une rencontre entre sourds, j'ai rencontré une famille.
D'accord.
La grand-mère, la mère et la petite fille. La petite fille était sourde et la mère m'expliquait toutes les peines qu'elle avait pour inscrire sa fille dans une activité extrascolaire comme n'importe quel autre enfant. Parce que la surdité, en fait, elle est tellement méconnue et les codes sont différents que comme on ne sait pas pratiquer la langue des signes et que dans les structures, on se demande comment on va faire pour prévenir, pour appeler, pour communiquer, tout simplement. Souvent, les enfants sourds n'ont pas accès aux activités. Donc, j'ai trouvé que c'était discriminant. Parce que pour moi, la surdité, c'est juste un problème de communication. Et je me suis dit, notre association, elle peut faire ça. Et donc, on a créé des ateliers qu'on a appelés silencieux, puisque on n'utilise pas la parole. Mais plutôt la langue des signes, voilà. Et pour les autres enfants, c'est avec le support de la langue des signes.
D'accord.
C'est une façon de s'initier de façon ludique à la langue des signes.
Donc ça
voilà.
Passe par des petites activités, des textes peut-être en langue des signes, c'est quoi pour les...
Alors on propose plusieurs activités. On peut proposer par exemple, là, on a créé des porte-clés en feutrine. Voilà, donc ça permet d'apprendre les couleurs en langue des signes,
ouais.
Peut-être les formes. Si on veut faire des animaux, on va apprendre à dire chien, etc. Chien, chat, fleur, voilà, c'est pour apprendre les bases de la langue des signes.
Ouais. Vous disiez justement que c'était compliqué pour des personnes sourdes ou malentendantes de s'intégrer dans des systèmes ou dans des endroits qui sont plutôt réservés. Optimisé pour des personnes entendantes. Qu'est-ce que ça implique dans la vie de tous les jours, par exemple, la surdité qui peut être compliquée par rapport à un train de vie de personnes entendantes.
Alors déjà, je vais juste ajouter une précision. Ouais. Le monde est fait effectivement pour les entendants. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens, ouais, hein, la majorité en psychologie, c'est au-dessus de 51%.
Okay.
La majeure partie des gens entendent correctement. Voilà. Donc c'est normal que la société soit audio-centrée. Mmh. Mais à partir de là, ça pose quand même des problèmes quand on a une oreille qui ne fonctionne pas. Donc vous me demandez des exemples concrets ?
Oui, que ce soit des exemples concrets dans la vie de tous les jours ou même justement en termes de, vous parliez d'injustice, vous parliez de problèmes d'inclusion dans des écoles, dans des choses comme ça, dans de l'accompagnement.
Alors déjà on va parler du quotidien. Par exemple, moi si j'ai pas mes prothèses, vous pouvez rester longtemps devant chez moi même en ayant sonné.
D'accord.
J'entends pas les... Voilà. Au quotidien, est-ce que vous avez déjà fait attention au nombre de sons qui vous alertent de quelque chose ?
Mmh.
Il y a donc la sonnette d'entrée, il y a votre téléphone portable, bon, il y a les vibreurs aussi, mais on ne les met pas toujours. Il y a les alertes sur les fours, etc., etc. Les feux de recul, les sons de recul pour les camions.
Ouais.
Et là, dernièrement, j'ai fait une formation auprès d'animateurs et dans la salle où ils accueillent les enfants. C'est bien, il y a une alarme, c'est super, sauf qu'elle n'est pas lumineuse. Elle est juste audio.
D'accord.
Et moi, il m'est déjà arrivé d'être dans un endroit où ça peut paraître, c'est sûr, improbable pour quelqu'un qui entend correctement, de se dire qu'une alarme incendie, on ne l'entend pas. Ouais. Mais si, c'est une réalité. Et donc, il y a des alarmes lumineuses. Là, il y a déjà de la discrimination.
D'accord. Et dans les écoles, justement, est-ce que ça peut arriver que des élèves ne soient pas acceptés ou ne puissent pas suivre un cours comme ça ? Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées pour ça ou des structures ?
Alors, vous parlez de quelque chose de très intéressant qui revient à parler... Enfin, je suis obligée de vous parler de la loi du 11 février 2005. On fête les 20 ans cette année.
D'accord.
Et en fait, la langue des signes a été reconnue comme une langue officielle à ce moment-là. Et les parents d'enfants sourds peuvent demander à ce que les enseignements soient faits en langue des signes. Dans la réalité... C'est très compliqué.
Oui, parce que tout le monde, tous les professeurs et les professionnels ne parlent pas forcément...
Exactement. Ouais. Il faut du temps pour apprendre la langue des signes. C'est quand même pas la majeure partie des enfants qui pratiquent la langue des signes. Il y a aussi des parents entendants qui ont peur de la surdité et qui ne connaissent pas... Enfin, qui ont une approche un peu différente. C'est quelque chose qui s'apprivoise aussi, hein, la surdité. Hein. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça fait peur quand on a un enfant qui naît, qui grandit avec des codes que nous, on connaît pas. Ça devient compliqué. Vous parliez de la discrimination, on fait partie, par exemple, jouer au foot avec un enfant sourd, ça pose pas de problème pour l'enfant sourd. Simplement, on va pas l'interpeller de la même façon. C'est toutes ces questions-là, en fait. C'est toute cette adaptation, ouais, qu'on ne connaît pas, qui fait peur. Et donc, le travail de l'association, c'est aussi de faire des ponts entre les sourds et les entendants. Ouais. Moi, en fait, ma chance, c'est d'être entre les deux mondes.
Oui.
Je suis à la fois sourde, donc je connais les problématiques, pas toutes, mais une grande partie. Et je suis à la fois entendante et de culture entendante, donc je connais les écueils et les repères des deux mondes.
Donc ça peut arriver, et j'imagine que oui, mais je vous pose quand même la question, que des personnes qui, par exemple, ne se sentaient pas assez incluses ou peut-être en incompréhension avec le fait qu'ils soient sourds, en fait, qu'ils arrivent dans votre association et que vous les accompagnez justement à prendre confiance en cette difficulté et on parlait tout à l'heure d'acceptation, de l'assumer pleinement et de la prendre finalement comme une force. C'est un peu cet accompagnement-là que vous faites dans l'association.
Alors, on ne le fait pas encore, mais c'est un des projets.
D'accord.
J'espère qu'on va être entendu.
Eh bien, espérons-le. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres intervenants dans cette association? Vous êtes seul ou vous êtes avec d'autres personnes?
Alors, pour le moment, je suis l'intervenante principale.
D'accord.
Parce que je forme d'autres intervenants à la langue des signes.
Okay.
Mais j'ai quelques bénévoles avec moi, effectivement, pour m'aider, dont aussi un intervenant sourd,
oui,
profond. Voilà.
Et les autres sont entendants?
Oui.
Ok.
On est tous les deux, on est deux seuls sourds, en fait.
D'accord. Et tout le monde parle la langue des signes, du coup?
Alors, à différents niveaux, ouais.
Ok. Très bien. Et est-ce que vous avez des partenaires avec cette association?
Oui, alors on a des partenaires. Alors on a évidemment la commune de Saulx-sur-les-Nancy, puisque l'association Langue et Signes est basée à Saulx-sur-les-Nancy. Nous travaillons aussi avec l'association CRIEREX. C'est une autre association créée par un formateur sourd il y a plus de 20 ans. Parce que quand il donnait des cours à des personnes entendantes, il s'est rendu compte que, en fait, c'est comme toutes les langues, il faut pratiquer pour,
ouais,
continuer.
Ouais.
de parler couramment. Ouais, ouais. Et donc, il a créé cette association. On fait des choses en lien. Enfin, voilà, c'est aussi des gens qui sont de bons conseils. L'association travaille beaucoup avec le FJEP à Champignol. Donc, c'est le foyer de jeunesse et d'éducation populaire. Mmh. Donc là, on y donne des cours d'initiation de langue des signes. On travaille aussi avec les enfants de maternelle dans le dispositif des classes, contrat local d'accompagnement à la scolarité, justement pour aider les enfants à la communication. Ouais. On est partenaire d'une plateforme qui s'appelle Tibria, c'est une plateforme de prise de rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'en tant que thérapeute, je suis affiliée à cette plateforme. Mmh. Et l'idée, c'est aussi de former les thérapeutes de cette plateforme à la surdité, ou alors donner quelques codes. Voilà. D'accord. Et puis bah, d'autres comme l'agence de communication qui a fait le site BeFamous, que je recommande chaudement. Non mais il faut en profiter.
Non mais vous avez raison.
Et si vous allez sur le site, vous verrez des très belles photos qui ont été faites par un photographe qui s'appelle Guillaume Pruniel. Voilà. Et on est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Rénov'Livre, qui nous donne en fait du matériel pour pouvoir faire des ateliers créatifs.
Ok.
Voilà.
Très bien. Je vous propose qu'on s'écoute What a Wonderful World de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, or also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
RCN, les masques tombent.
Nous sommes toujours dans Les masques tombent avec Odile Fouche, qui est la fondatrice de l'association Langue et Signes. Et il faut qu'on continue de parler parce qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes à dire sur ça. Et vous parlez justement du cas d'isolement, par exemple dans une voiture. Et de manière générale, quand on est sourd, on s'isole, vous disiez.
Oui, on s'isole parce que, comme je le disais tout à l'heure, entendre n'est pas comprendre. Et lorsqu'on fait répéter plusieurs fois les personnes, bah souvent les gens s'agacent. Mmh. Et enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé. Si je vous fais répéter plusieurs fois la même phrase, la première fois vous allez le faire, la deuxième aussi, la troisième vous n'allez pas forcément le dire parce que vous êtes poli, mais vous n'allez pas vous dire que mécaniquement j'ai un problème d'oreille. Mmh. Vous allez vous dire, elle est bête ou quoi.
Ouais, ouais, ouais.
D'ailleurs, on a associé souvent sourdingue. Une fois qu'on a dit ça, je pense que tout est fait.
Ah.
Sourdingue, l'expression sourdingue.
Et ça vient de le fait d'être
sourd, dingue.
Ok. D'accord.
Et donc, par exemple, dans une voiture, effectivement, moi, ça m'arrive quand je suis côté passager ou conducteur, tout va bien. Mais du moment que je passe à l'arrière d'une voiture, il y a le bruit du moteur, le bruit environnement. Il suffit qu'il y ait la radio, les gens parlent. Moi, je décroche. Hein. Je laisse les gens vivre leur vie et leur conversation. La surdité est un facteur d'isolement, oui. Très important.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a des avancées aujourd'hui pour l'inclusion, tout du moins la prévention peut-être, pour justement cette inclusion des personnes sourdes?
Non, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce que la surdité n'est pas connue et en même temps, la communauté sourde a aussi parfois tendance à se mettre, à rester entre elles.
Ouais.
Et puis parce qu'on n'a pas les codes. Ça, c'est... Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de travail au niveau de l'inclusion. Moi, quand je vais dans un musée, je demande régulièrement s'il y a des sous-titrages, par exemple, pour s'il y a des... Maintenant, c'est courant dans les musées, on a des explications, des vidéos, des reportages. Elles ne sont pas souvent sous-titrées. Ou alors, au contraire, on fait des visites avec un casque sur les oreilles, donc c'est bien gentil, mais c'est pas toujours évident. Je suis même allée dans un... Je vais pas nommer les musées parce que c'est pas ça l'intérêt, mais je suis allée dans un musée où il y avait des... Techniquement, ça avait une possibilité d'entendre le son directement dans les prothèses, ça s'appelle une boucle, une boucle à induction, mais aucun des professionnels qui étaient là, des personnes qui étaient à l'accueil, ne savait comment ça fonctionnait.
D'accord.
Donc, c'est super bien d'avoir le matériel, hein. C'est déjà un pas.
Mais si on ne sait pas l'utiliser, il n'y a aucun intérêt.
C'est quoi l'intérêt, quoi.
Ouais.
Voilà, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais aussi parce que moi qui fais de la prévention et de la sensibilisation, les gens apprennent beaucoup de choses. Les gens apprennent beaucoup de choses.
Et voilà. Vous sentez quand même qu'il y a un effort de compréhension collective. Enfin, moi, je disais par exemple que Joris, qui est notre technicien, parle un peu la langue des signes parce que sa mère est sourde et donc il a il est confronté à ça. Mais est-ce que c'est pas justement, est-ce que les gens, si on les poussait à leur montrer par exemple à l'école ou au travail ou à les inclure, est-ce que finalement tout le monde n'aurait pas envie d'apprendre la langue des signes et en fait de faire un effort pour que tout le monde se comprenne? Est-ce que c'est aux sourds de se montrer, ou de faire des efforts pour s'inclure, ou est-ce que c'est aux entendants de faire aussi des efforts, quoi?
Alors moi, je vais vous dire que c'est aux entendants de faire des efforts pour s'inclure auprès des sourds et que c'est aux sourds de faire des efforts pour s'inclure auprès des entendants.
Ouais.
Je pense que les efforts, ils doivent être des deux côtés.
Ouais.
Et il y a quand même des choses qui bougent. Y a le bébé signe. C'est quelque chose qui est mis en place. Alors c'est un langage, là, c'est pas une langue. C'est un langage qui utilise des signes issus de la langue des signes pour permettre aux enfants de communiquer. À partir de 8 mois, même un peu avant, parfois, ils peuvent communiquer avec des signes simples. Manger, dormir, pipi, caca, etc. Changer. On utilise de plus en plus dans les crèches.
Okay.
Donc ça montre bien que comme outil de communication, la langue des signes, en tout cas le bébé signe, est reconnu. Mais c'est vrai qu'il faudrait aller plus loin. Mais tout ça, ça s'explique historiquement et je pense qu'on n'a pas trop le temps pour que je vous en parle ici.
Parce que vous disiez justement que les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas la parole encore. Ils communiquent par les signes, du coup, quelque part. Enfin, le son, mais ils ne parlent pas...
En fait, ils peuvent utiliser la voix, mais ils ne vont pas former des mots.
Ouais, c'est ça.
Pour former des mots, il faut pouvoir les entendre.
Exact.
Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a tous l'image d'un enfant qu'on porte dans nos bras, d'un bébé qui va tendre le doigt vers quelque chose pour nous montrer ce qu'il veut, par exemple. Quelque part, c'est une langue des signes, quelque part. En tout cas, c'est une langue gestuelle. C'est quelque chose d'assez naturel, les faits, les signes, le corps. La communication par le corps est quelque chose d'assez naturel, mais que nos sociétés, pour des raisons historiques aussi, ont un peu étouffé.
Vous avez des exemples historiques? Parce que vous disiez qu'on n'a pas le temps, mais en même temps, ça m'intrigue un peu de me dire il y a eu ça a été étouffé, c'est-à-dire on a isolé
C'est-à-dire que pendant longtemps, la France a été la pionnière au niveau de la langue des signes et de l'inclusion des sourds jusque dans les années 1700... je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas dire de bêtises.
On va dire à peu près.
Ouais, 19e siècle, début 19e siècle. Et à partir de là, en fait, on a décidé... c'est vraiment bref, mon explication, c'est vraiment pour aller à l'essentiel. Il a été décidé que les sourds devaient parler, devaient oraliser. Pour différentes raisons. D'abord pour la raison du corps, parce que parler avec son corps, en fait, dans une époque où au 19e siècle, c'était très puritaniste. Ça veut dire que quand on parle avec son corps, on est obligé d'être regardé. Et il y avait un problème avec le regard et avec l'expression dans le corps.
D'accord.
Donc il ne fallait surtout pas les regarder. Ensuite aussi, parce qu'il y a eu, c'était au moment de l'hygiénisme, la santé a fait, il y a eu beaucoup de recherche, les médecins ont dit que, par exemple, si on n'utilisait pas son appareil phonatoire, qui va donc de la bouche jusqu'au poumon, avec l'appareil respiratoire, on pouvait attraper la tuberculose. etc. Il y a eu donc plein d'idées préconçues comme ça. La langue des signes, c'était une langue des singes, des gens qui étaient bêtes. Mais voilà, ça a été aussi jusque-là. Et donc, et puis aussi, sous l'influence des écoles qu'on appelle oralistes, qui apprenaient donc aux sourds à parler, parce qu'on peut apprendre à parler même quand on est sourd, sauf que comme on n'utilise pas ses oreilles, et ben c'est un peu plus long. D'accord. Et donc, ces écoles, et ben, se faisaient aussi un peu d'argent... voire beaucoup sur le dos des familles sourdes. Et donc, il a été décidé dans un grand congrès qui a eu lieu en Italie, à Milan, en 1881, que les sourds devaient oraliser.
D'accord.
Et à partir de là, les professeurs sourds qui exerçaient dans des écoles sourdes et qui enseignaient la langue des signes ont été relégués à des places de répétiteurs. Et ce sont des enseignants entendants qui pratiquaient pas ou mal la langue des signes qui ont repris le flambeau. Et la langue des signes a été bannie.
D'accord.
Légalement, elle n'a jamais été interdite, mais on interdisait aux enfants de signer.
C'est fou. Donc ça veut dire il y a encore quelques années, enfin ça remonte un peu maintenant, mais il y a encore quelques années, au final, c'était courant en fait de signer et tout le monde à peu près parlait la langue des signes.
Jusqu'en 1870 à peu près, c'est pas tout le monde, hein, mais en tout cas pour les sourds, c'était pas un problème. Même pour les entendants, ils voyaient des sourds. Enfin, c'était absolument pas un souci. De 1881 à 1981, elle a été bannie. Après, elle est revenue sous des actions aussi faites par les sourds, à une époque qu'on appelle le réveil sourd, par exemple.
D'accord.
Et après, et depuis, la langue des signes, et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2005, elle a été reconnue comme une langue officielle.
Exact.
Pour autant, il y a très peu de personnes qui pratiquent la langue des signes. Il y a aussi très peu de professionnels.
Et donc, ça veut dire jusqu'à 2005, c'était pas une langue... C'était quoi ?
C'était pas une langue reconnue, c'était une langue, mais elle n'était pas reconnue officiellement.
D'accord, donc c'était un jargon, comme on pourrait dire, ou un...
Comme n'importe quel patois, je pense.
D'accord.
Oui, ça, c'est vrai que vous me posez une question plus précise. Je vois pas très bien comment elle aurait pu être considérée avant, mais en tout cas, elle n'était pas officielle. C'est-à-dire que là, on peut demander, dans les textes, c'est ça, on peut demander à ce que l'enseignement soit fait bilingue, langue des signes français, depuis 2005.
Et du coup, ça rejoint un peu la question que je vous posais avant, mais du coup, est-ce que depuis 2005 et depuis qu'on commence à un peu évoluer de plus en plus ces dernières années, mine de rien, vers l'inclusion des personnes avec des handicaps, des personnes qui peuvent être malvoyantes, malentendantes, est-ce qu'il y a quand même des progrès qui sont faits, par exemple les sous-titrages qui deviennent fréquents, par exemple à la télé ou sur les séries ou les films, est-ce que c'est quelque chose qui va vers le plus ?
Non, mais bien sûr, tout ce qui peut être fait vu comme un effort pour faciliter la vie des sourds, bien sûr, les SMS, par exemple, les téléphones, c'est une vraie révolution dans les mondes des sourds parce que, en fait, les sourds téléphonent, ils font des vidéos, en fait. Ils font des vidéos, ils signent ou ils écrivent des SMS. Donc, c'est très, très pratique. Les sous-titrages aussi, mais bon, j'attire quand même l'attention sur le fait que les sous-titrages automatiques... fait par les intelligences artificielles, si on a un accent ou qu'on prononce pas le mot correctement, le sous-titrage ne va pas être de bonne qualité. Voilà.
Ok. Est-ce que vous avez des petits conseils, des petites recommandations pour des auditeurs qui nous écoutent, qui découvrent peut-être un peu plus la surdité par cette émission, ou des gens qui sont confrontés et qui ne savent pas forcément comment faire ou qui aimeraient inclure plus ces personnes sourdes? Est-ce que vous avez des petits conseils quotidiens que vous pourriez recommander ou des je ne sais quelles habitudes qu'on pourrait inclure facilement et qui pourraient permettre justement de faciliter la vie à ces personnes-là et de partager plus correctement et plus simplement entre nous?
Alors en fait, ça va être des conseils qui vont pas seulement être bons pour les sourds, mais aussi pour les entendants.
Absolument.
Parce que en fait, quand on signe ou quand on est sourd, par exemple, on est obligé de regarder. Moi, par exemple, quand on me parle, je fixe beaucoup la personne. C'est pas que je suis impolie, c'est que j'ai besoin de lire sur les lèvres.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là, je ne peux pas écouter d'une oreille distraite comme ferait n'importe qui en pianotant sur son téléphone portable, par exemple. Je suis obligée de regarder mon interlocuteur ou mes interlocuteurs.
D'accord.
Et on gagne en qualité.
Ouais.
Ne pas parler trop vite. Parce que quand on parle trop vite,
on
n'arrive pas à lire sur les lèvres. Ne pas exagérer non plus. D'abord parce que ça déforme
le
mot, la bouche. Et puis parce que moi, quand ça m'arrive, quand je dis que je suis sourde, ça part d'un bon sentiment. Donc c'est difficile de dire quelque chose aux personnes, mais j'ai l'impression qu'on me prend pour une débile, quoi. C'est pas parce que j'entends pas que je... Voilà, donc faire normalement, ne pas entraver la bouche.
D'accord.
Voilà, donc pas mettre la main devant la bouche quand on parle, ne pas avoir de chewing-gum dans la bouche. Si vous êtes à table et que vous avez un joli pot de fleurs qui trône plutôt au milieu de la table, enlevez-le, on se verra mm-hmm. mieux pour parler. Voilà, les petites choses simples que je peux vous dire comme ça.
Ok, et peut-être un peu de patience aussi. Vous disiez tout à l'heure que répéter les choses, parfois ça pouvait nous irriter, se dire « Ah, mais on n'entend pas, je le répète 10 000 fois ».
C'est-à-dire que voilà, j'attire l'attention, la bienveillance en fait des personnes. Ce n'est pas parce qu'on fait répéter les gens que c'est pour les embêter. Mmh. C'est aussi difficile de demander de
Absolument.
Répéter que de répéter.
Absolument, il faut le dire. Est-ce que, pour revenir à cette association, est-ce qu'il n'y a pas raison moyen d'adhérer à votre association, de participer d'une quelconque manière à vos activités?
Alors vous pouvez, oui, il y a un site qui c'est www.langue-et-signe-tout-attaché.fr et vous pouvez bien sûr regarder, il y a des actualités, d'ailleurs on vient de gagner un prix.
On n'en a pas parlé, non. Vous faites bien de le dire.
On vient de gagner un prix pour le projet des ateliers silencieux.
Oui.
Voilà, on a gagné une somme d'argent, on a gagné un film de communication qui va être sur le site aussi. Et puis on a gagné un trophée fait par un artisan verrier et c'est une belle reconnaissance pour nous.
Magnifique.
On a été présélectionnés au milieu de 300 associations et après les gens nous ont plébiscité sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Voilà.
C'est quoi le nom du...
Le trophée des...
De la récompense.
Ah c'est le trophée de l'engagement associatif organisé par la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Voilà, catégorie solidarité. Ça aurait tout. Hein.
Félicitations. Félicitations.
Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez un événement justement à venir ou des événements réguliers que si nos auditeurs se disent tiens, où est-ce que je peux les rencontrer, vous rencontrer ou assister à une de vos activités?
C'est assez ponctuel pour le moment. On essaye de mettre des choses en place plutôt en mois de septembre, mais en tout cas des ateliers silencieux régulièrement tous les mois.
D'accord.
Et puis après il y a des sensibilisations à droite à gauche en fonction des demandes, mais on réfléchit à faire des événements plus précis.
Ok. D'accord. Donc tout ça est à retrouver sur votre page, votre site internet.
Sur le site internet,
donc
ouais.
Langue et signe, langue au singulier et signe au pluriel, .fr, tout attaché. Merci Odile pour votre temps. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle émission des Masques tombent.